Good morning, Captain. Well, good morning to you.
Si vous aimez ce podcast, si vous voulez l'aider à rester un projet viable pour moi, il y a deux choses que vous pouvez faire. D'abord, vous pouvez devenir un supporter de l'émission sur Patreon. Patreon est une plateforme qui vous permet de soutenir directement le podcast parce que vous reconnaissez la valeur de mon travail. Il suffit d'aller sur leur site, Patreon, patreon.com. Vous cherchez un dernier disque avant la fin du monde ou vous cherchez Captain Dilligaf. Vous vous inscrivez pour donner quelques euros chaque mois. Voyez cela comme un abonnement volontaire. Un abonnement que vous n'êtes certainement pas obligé de payer, mais que vous choisissez de payer parce que vous aimez le podcast. Et parce que vous n'aurez pas besoin de ces quelques euros avant la fin du mois. Si seulement un petit pourcentage des auditeurs donnait le prix d'une tasse de café chaque mois, cela ferait une immense différence pour moi. Merci donc à tous ceux qui ont pris sur leur temps et sur leur capital pour soutenir le podcast de cette façon. Cela signifie beaucoup. Mais il y a aussi deux façons entièrement gratuites de le faire. D'abord, vous pouvez laisser une note sur la plateforme que vous utilisez pour écouter les podcasts, ou vous pouvez simplement parler du podcast à un ami, faire passer le mot. Comprenez bien que ces deux choses m'aideront beaucoup plus qu'elles ne seront une corvée pour vous. Ok, j'arrête le harcèlement ici. Nous allons ouvrir un dossier très important pour Noël. Noël, ça va être une semaine de folie. Vous allez avoir 4 épisodes. L'épisode régulier sur les Isley Brothers, la deuxième partie, et puis 3 épisodes sur Crossroad Blues. Nous allons d'abord parler du blues, de l'histoire du blues et des débuts discographiques de ce genre, de Cream, le premier supergroupe de l'histoire, qui en a fait une version qui est très connue, et pour finir, du mythe de Robert Johnson et du ramassis de conneries qui l'accompagne. Donc, avec l'aide de mes petits lutins et du Sgt Pepper, je vous ai concocté ce qui suit. 3 épisodes sur le même thème. L'épisode numéro 1, le blues, la chanson, 1h20. L'épisode numéro 2, Cream, 2h10. L'épisode numéro 3, Robert Johnson, la vérité avec plein d'infos inédites, 1h. Oui, 4h30 de programme totalement inédit. Joyeux Noël. L'épisode de cette semaine se penche sur Twist and Shout des Isley Brothers et sur les débuts de la carrière de Bert Burns. Si certains d'entre vous se demandent qui c'est un songwriter et producteur responsable de titres comme Everybody Needs Somebody, Piece of My Heart, Brown Eyed Girl et Under the Boardwalk. Et Twist and Shout, bien sûr.
Good morning, Captain. Well, good morning to you.
Mené par le Captain Dilligaf, un mélomane de mauvaise foi qui partage sa vie avec le Sgt Pepper, une femelle bulldog français pétomane, le podcast Un dernier disque avant la fin du monde s'applique à remettre en perspective des disques, des chansons, des artistes. Le Captain Dilligaf n'hésite pas à mélanger classique rock et succès pop en évitant de répondre aux questions trop impliquantes telles que « Danny Briand l'est-il vraiment ?»« Johnny Mitchell est-elle la fille cachée de Johnny Hallyday et Eddy Mitchell ?» Le blues a-t-il été inventé par les Blancs? Les Ramones ont-ils nettoyé des cheminées? Patti Smith aime-t-elle Morrissey? Et qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école? Bonne écoute.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Alors, nous allons retourner au Brill Building pour rencontrer un des plus grands des auteurs-compositeurs. Et cette chanson qu'il a écrite et qui est devenue un classique de la soul et du rock. Nous allons voir comment une nouvelle chanson latine, basée sur une mode de danse, a été reprise par l'un des plus grands groupes de soul des années 60, puis retravaillée par le plus grand groupe de rock britannique de tous les temps. Nous allons donc nous pencher sur Twist and Shout des Isley Brothers.
«
En 1959, les Isley Brothers venaient de signer chez Atlantic et avaient sorti plusieurs singles avec Lee Barry Stoller. Des disques comme Standing on the Dance Floor, qui étaient d'excellents disques R&B, mais qui ne se sont pas vendus. En 1962, ils sont abandonnés par Atlantic et passent à Wound Records, le troisième label lancé par Florence Greenberg, qui avait déjà créé Tiara et Scepter. Comme pour ces labels, Luther Dixon est chargé de la musique et produit leur premier single sur le label, une chanson dansante relativement entraînante intitulée The Snake, qui n'a eu aucun succès commercial. Bien que The Snake ne se soit pas vendu, les Isley Brothers avaient manifestement un certain potentiel commercial. Et d'ailleurs, leur précédent succès, Shout, venait juste d'être réintroduit dans les hit-parades après que Joe Eddy and the Starlighters aient eu un succès avec la reprise immonde que nous avons écoutée l'autre jour. Tout ce qu'il fallait, c'était la bonne chanson. Et il pouvait devenir aussi important que l'autre groupe de Luther Dixon, les Shirelles. Et Dixon avait justement la chanson qu'il leur fallait, une chanson coécrite par Burt Bacharach et chantée sur la démo par une jeune chanteuse appelée Dionne Warwick. Malheureusement, ils ont passé la quasi-totalité de la session à essayer et à échouer à enregistrer la chanson. Ils n'arrivaient pas à la faire fonctionner et ils ont fini par abandonner et Bacharach a produit la chanson pour Jerry Butler, l'ancien chanteur des Impressions, qui a eu un succès dans le top 20 avec cette chanson.
So very hard to do. If you really love him, then there's nothing I can do. Don't try to spare my feelings, just tell me that we're through. And make it easy on yourself. Make it easy on yourself. Cause breaking up is so very hard to do. And if the way I hold you can't compare to his caress,
No words of consolation will make me miss you less.
C'est alors que l'assistant de Dixon, Bert Burns, suggère d'enregistrer l'une de ses chansons à lui, qui avait été un échec commercial pour un autre groupe l'année précédente. L'histoire de Twist and Shout commence en fait avec un groupe appelé les Five Pearls, qui ont enregistré leur premier disque en 1954.
That you'll always be true. Please say you love me half as much as I love you. Anyone can see I love you so. Please say you love me, darling, please. Let me know.
Les Five Pearls ont enregistré sous différents noms et dans différentes combinaisons pour plusieurs maisons de disques de taille moyenne, comme Aladdin, tout au long des années 50, mais sans grand succès. Le plus proche fut lorsque l'un des membres, Dave Baby Cortez, se lança en solo et obtint un succès avec The Happy Organ en 1959. En 1960, deux membres des Pearls, qui ont utilisé des noms différents à différents moments de leur carrière, mais qui s'appelaient à ce moment-là Derek Ray et Guy Howard, ont signé chez Atlantic sous la forme d'un nouveau duo appelé The Top Notes. Leur premier single sous ce nom, A Wonderful Time, n'a pas fait mieux que tous leurs autres disques. Mais dès leur troisième single, ils étaient produits par un nouveau producteur, Phil Spector, qui avait commencé à accepter des travaux de production que Leiber et Stoller n'étaient pas intéressés à faire eux-mêmes, comme un remake de la vieille chanson folk Corinne Corinna, qui avait été un succès R&B pour Big Joe Turner et que Spector avait produit pour le chanteur de country Ray Peterson.
I love Corinna. Tell the world I do.
Peu de temps après, Spector rompt avec Leiber et Stoller. Spector a eu l'occasion de coécrire des chansons pour le nouveau film d'Elvis, Blue Hawaii, mais il a signé un contrat d'édition avec la société de Leiber et Stoller, Trio Music, et ils ont dit à Hill & Range, la société de Presley, qu'ils ne pourraient faire les chansons que si Trio obtenait la moitié de l'édition, ce que bien sûr Hill & Range a catégoriquement refusé. Il a apparemment été question qu'ils aillent de l'avant de toute façon, mais Hill & Range a eu peur de l'avocat de Trio Music, l'un des meilleurs de l'industrie du divertissement. Ce ne serait pas la dernière fois que Phil Spector et Lee Eastman se retrouveraient dans des camps opposés. Peu après, le contrat de Spector a mystérieusement disparu du bureau de Trio Music. Quelqu'un s'est souvenu que Spector avait la clé du bureau. Mais à ce stade, Spector avait coécrit ou coproduit un certain nombre de succès et il a donc été engagé par Atlantic pour ses propres mérites. Et c'est ainsi que lui et Jerry Wexler ont coproduit des singles pour les Top Notes avec des arrangements de Teddy Randazzo que nous avons entendu pour la dernière fois chanter avec un accompagnement d'accordéon dans The Girl Can Help It. Le premier de ces singles, Heart of Stone, est une tentative de ressembler à Ray Charles avec des morceaux directement tirés de What I Say et du tube de Charles Sticks and Stone. Et le morceau suivant, sorti par Top Notes, était la chanson qui les ferait entrer dans l'histoire de la musique. L'auteur de la chanson est Burt Russell et Phil Medley. Et bien que Medley n'ait eu que peu d'impact sur le monde de la musique, l'auteur de la chanson, Burt Russell, lui mérite qu'on s'y intéresse. Il s'appelle Bertrand Russell Burns. Il a été nommé d'après le célèbre philosophe. Et c'est un homme en mission. Il avait déjà 31 ans et savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Il avait eu le rhumatisme articulaire aigu dans son enfance et cela avait donné chez lui une maladie cardiaque incurable. Il n'avait aucune idée du temps qui lui restait à vivre, mais il savait qu'il ne vivrait pas jusqu'à un âge avancé. Il avait déjà gaspillé ses 20 ans, il avait essayé plusieurs façons d'entrer dans le showbiz sans succès. Il avait essayé un double numéro de comédie et à un moment donné, il s'était même installé à Cuba où il avait essayé d'acheter une boîte de nuit, mais il avait fait marche arrière lorsqu'il s'était rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un bordel. À son retour aux États-Unis, il a commencé à travailler comme auteur-compositeur au Brill Building. À la fin des années 50, il a travaillé pendant un certain temps avec le chanteur de rockabilly Herschel Hickey qui a connu un petit succès avec Bluebirds Over the Mountain.
Bluebirds over the mountain, seagulls over the sea. Bluebirds over the mountain, bring my baby to me. A boy and girl, they fell in love. Each it was like heaven above. He looked into her eyes of blue. She vowed to him that she'd be true. Bluebirds over the mountain, seagulls over the sea. Bluebirds over the mountain, bring my baby to me.
Burns était fier de connaître Hickey, car Bluebirds Over the Mountain avait été repris par Ritchie Valens, et La Bamba était le disque préféré de Burns, un disque qui l'a inspiré tout au long de sa carrière. Il aimait la musique latine en général. C'était l'une des raisons pour lesquelles il avait d'ailleurs déménagé à Cuba. Mais cette chanson en particulier le fascinait big time. Il avait écrit et produit une poignée d'enregistrements au début des années 50, avant son voyage à Cuba. Mais c'est à son retour qu'il a commencé à être vraiment productif. Il a commencé à produire des disques de fantasy avec un ami, Bill Giant, comme une chanson basée sur le discours de Gettysburg.
The great battle of Gettysburg was fought on the first, second and third days of July 1863. On November 19th of the same year, a portion of the battlefield was dedicated as a final resting place for those Americans, both North and South, who died there.
Four score and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty.
Ou un disque solo sur Alamo. À l'époque, Burns semblait penser que les chansons sur l'histoire américaine seraient probablement « the next big thing », le prochain grand succès.
Surrender or you'll die, there ain't no other way. The young commander of the fort...
Il avait coécrit avec Hercel Hickey une chanson intitulée A Little Bird Told Me, interprétée par Laverne Baker.
Around the corner and under the tree, a little birdie I said to me.
Medley et lui ont ensuite écrit Push Push pour Austin Taylor. Mais en 1961, il n'était encore pratiquement personne dans l'industrie musicale. Et Jerry Wexler avait produit l'enregistrement de A Little Bird Told Me de Laverne Baker. Et il aimait bien Burns. Il accepta donc que Burns et Medley écrivent ensemble pour la prochaine session des Top Nuts. La chanson en question s'appelait Shake It Up Baby, basée sur les accords et la mélodie de la bamba, mais réimaginée avec des rythmes afro-cubains que Burns aimait tant, puis retravaillée pour faire référence à la mode de la danse twist. Burns était certain que la chanson serait un succès. Elle était aussi entraînante que tout ce qu'il avait pu écrire et elle était pleine d'accroches. Burns a été autorisé à entrer en studio pour assister à l'enregistrement, produit par Wexler et Spector. Mais il n'a pas été autorisé à s'impliquer. Et il a regardé avec horreur Spector aplatir le rythme et réécrire totalement la section centrale. Spector a également ajouté des chœurs basés sur le récent succès Handyman et une ligne vocale, comma comma, qui ne correspondait pas vraiment à la chanson. Le résultat est en fait un disque assez décent, mais en dépit de l'interprétation par tous les musiciens habituels des sessions atlantiques, comme King Curtis par exemple, et de l'excellent travail des Cookies sur les chœurs, Twist and Shout des Top Nuts a fait un flop massif. Et Burns pouvait prévoir qu'il en serait ainsi pendant toute la séance d'enregistrement. Top Nuts se sépare rapidement, sans laisser de véritables traces dans l'histoire de la musique. Lorsque Guy Howard meurt en 1977, il a repris son nom d'origine, Howard Gittin, et les Top Nuts sont si obscurs que sa nécrologie se concentre sur son passage dans l'une des dernières versions de tournée des Platters. Burns était furieux de la façon dont Spector avait détruit la chanson. et décidé qu'il allait devoir commencer à produire les chansons lui-même afin qu'elles ne soient pas massacrées par quelqu'un d'autre. Mais ce projet a été mis en veilleuse pendant un certain temps car il commençait à avoir du succès. Son premier succès en tant qu'auteur-compositeur a été obtenu grâce à une chanson qu'il a écrite pour un groupe mineur appelé les Jarmels. À cette époque, les Drifters connaissent un grand succès en utilisant les mêmes rythmes latins et caribéens que Burns aime, et il a donc écrit A Little Bit of Soap dans le style des Drifters qui se classe parmi les 20 premiers.
A little bit of soap will wash away your lipstick on my face. But a little bit of soap will never erase the pain in my heart and my eyes as I go through the lonely hills. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap
Il commence également à enregistrer des disques qui ne sont pas forcément sur des rythmes latins. Luther Dixon de One Records entendit l'une des démos de Burns et décida qu'il devait chanter et pas seulement écrire ses chansons. Burns est signé par One Records en tant qu'artiste solo sous le nom de Russell Byrne. Et son premier single pour le label est produit par Dixon. La structure de la chanson elle-même est un peu désordonnée. Burns semble avoir rassemblé plusieurs accroches, plusieurs idées, y compris certaines provenant d'autres chansons. Mais il n'a pas bien réfléchi à la façon de les relier entre elles, ce qui fait que la chanson s'égare un peu. Mais on peut clairement voir un air de famille avec Twist and Shout dans la mélodie et dans l'arrangement de cordes écrit par Carole King. Cette chanson s'est classée dans le top 50 et a permis à Burns de participer à l'émission American Bandstand. Mais ce n'était pas encore le succès fulgurant dont Burns avait besoin. Alors que Burns avait été contrarié par Spector pour la façon dont il avait massacré Twist and Shout, il n'était manifestement pas fâché contre lui au point de ne pas pouvoir travailler avec lui. Car la deuxième session de Russell Byrd, une autre contrefaçon des Drifters, a été produite par Spector, Night of Mexico.
I got it bad with nothing but a man's cold breeze. Now she's gone and I'm feeling low. I remember those nights in Mexico. Oh, oh. Con las noches. Last noche de Mexico.
The nights of Mexico.
I'm so sad. I think about her all the time. Of her love.
Mais Burns cherche toujours à produire son propre matériel. Il en a eu l'occasion lorsque Jerry Wexler l'a appelé. Atlantic a des problèmes. Bien que la maison de disques ait de grands groupes vocaux comme les Drifters ou les Coasters, elle vient d'apprendre que ses deux plus grands chanteurs solistes masculins, Bobby Darin et Ray Charles, partent vers d'autres labels. Ils avaient récemment signé un chanteur de gospel appelé Solomon Burke, qui avait eu un petit succès avec une version d'une vieille chanson country, Just Out of Reach.
That runs away from me, dreams that just won't let me be, blues that keeps on bothering me, chains that just won't set me free, too far away from you and all your charm. Just out of reach of my too empty heart. Each night in dreams I see your face, memories time cannot erase. Then I awake and find you're gone. Then I'm so blue and all alone, so far away.
Burke était ce qui se rapprochait le plus d'une star masculine solo. Et il avait manifestement un grand talent. Mais il avait aussi des opinions bien arrêtées et il n'était pas facile de s'entendre avec lui. 12 ans avant sa naissance, sa grand-mère avait fait un rêve dans lequel elle croyait que Dieu lui avait révélé l'importance de son futur petit-fils. Elle avait donc fondé une église, le Temple de Salomon, The House of God for All People, en prévision de sa naissance. Et il avait commencé à y prêcher dès l'âge de 7 ans en tant que chef spirituel de l'église. Comme on peut s'y attendre, il avait un ego démesuré et cet ego n'était pas amoindri par le fait qu'il était manifestement un chanteur très talentueux. Ses opinions très tranchées portaient notamment sur la manière dont sa musique devait être commercialisée. Il n'avait rien contre le fait de chanter des chansons pop plutôt que du gospel dans lequel il avait commencé, car il avait besoin d'argent. Il avait 8 enfants et en plus d'être chanteur et prêtre, il était aussi croque-mort et il l'a été jusqu'à la fin de sa vie et avait un travail annexe de déneigement pour 4 $ de l'heure. Mais il n'aimait pas être commercialisé en tant que rhythm and blues. Le rhythm and blues, c'était la musique sale, pas respectable. Sa musique devait porter un autre nom. Après quelques discussions avec Atlantic, tout le monde se met d'accord pour une nouvelle étiquette qui serait acceptable pour son église, une étiquette qui s'appliquait auparavant à un type de jazz essentiellement instrumental, influencé par le gospel noir, mais qui, à partir de maintenant, s'appliquerait presque exclusivement à la musique pop, influencée par le gospel noir, dans la lignée de Ray Charles et de Clyde McFatter. Burke ne chantait pas du rhythm and blues, il chantait de la musique soul. Wexler avait produit les premières sessions de Burke, mais il a toujours pensé qu'il travaillait mieux lorsqu'il avait un coproducteur. Mais il aimait une chanson que Burns avait écrite, Cry to Me, une autre copie de chanson des Drifters. Il demanda donc à Burns d'entrer en studio pour produire Burke chantant cette chanson. Les deux hommes ne se sont pas très bien entendus au début. Le commentaire original de Burke lors de sa rencontre avec Burns était « Qui est ce motherfucker ?» Mais il est difficile de contester le résultat, l'un des plus grands disques soul de tous les temps.
All alone, and nobody calls you on the phone. Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? For here I am, honey. Come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room,
lovely, but the smell of her perfume. Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Walk with me. Oh, oh yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one. Don't you feel like I'm crying?
Cette chanson s'est classée dans le top 5 du classement R&B et a lancé une série de succès pour Burke, dont les disques continueront d'être produits par l'équipe Burns et Wexler pendant les années suivantes. Après ce premier disque, Burns a commencé à produire de nombreux autres disques, la plupart sans succès, comme un album de twist très bon marché pour profiter de la résurgence de l'engouement pour le twist. Il travaille toujours avec Wand Records, ce qui lui vaut d'être invité à assister Dixon lors des sessions pour les Isley Brothers pour Make It Easy On Yourself. Comme ils ne parviennent pas à faire une prise correcte pour ce titre, Burns leur suggère de faire une tentative avec Twist and Shout, dont il pense toujours qu'il a le potentiel pour être un succès, et qui conviendrait parfaitement aux Isley Brothers. Après tout, leur seul succès, c'était Shout, donc Twist and Shout serait le moyen parfait pour eux d'obtenir une espèce de pertinence, de cohérence. Les frères détestaient la chanson, et ils ne voulaient absolument pas enregistrer de morceaux de Twist. Apparemment, ils étaient si farouchement opposés à l'enregistrement de la chanson que des meubles ont été un peu bousculés lors de la dispute à ce sujet. Mais Luther Dixon insista pour qu'il le fasse. C'est donc à contre-cœur qu'ils enregistrèrent Twist and Shout, de la manière dont Bert Burns l'avait envisagé à l'origine, avec une touche latine et tout le reste.
Yeah, you
talent de Ronald Isley en particulier est mis en évidence par le fait qu'il semble totalement engagé sur ce disque, alors qu'il n'avait aucune envie d'y participer. C'est assez dingue. Le disque se classe dans les 20 premiers du classement pop et à la deuxième place du classement R&B, devenant ainsi le premier véritable succès des Isley Brothers auprès du public. Il aurait même pu faire mieux sans une coïncidence malheureuse. Do You Love Me, des Contours, une chanson écrite par Berry Gordy, est sortie sur l'un des labels de la Motown quelques semaines plus tard, avec une accroche vocale ascendante très similaire.
You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.
Do You Love Me a connu un plus grand succès, se classant troisième dans les charts pop et premier dans les charts R&B. Mais il est difficile de ne pas penser que le fait que les deux disques soient si similaires a dû peser sur le marché des deux disques, l'un poussant l'autre. Mais quoi qu'il en soit, Twist and Shout est un véritable grand succès pour les Isley qui les consacrent comme de véritables stars. Et Burns devient leur producteur attitré pendant un certain temps. Malheureusement, les Isley et Burns ne savent pas quoi faire pour la suite. La première tentative est l'un de ces disques étranges qui tente de mélanger des morceaux de plusieurs succès récents et semble avoir été inspiré par le succès alors récent de Yann and Dean avec une reprise de la chanson Linda de 1946.
About the loving I've missed. We pass on the street, pass on the street.
Cette chanson a été écrite par coïncidence, à propos de la fille de Lee Eastman, l'avocat dont nous avons parlé un peu plus haut. Twistin' with Linda, la réponse des frères, reprend les personnages de cette chanson et y ajoute la mélodie du récent tube Hooly Gooly, des références lyriques à Twist and Shout et au succès Twist de Chubby Checker, et Ronald Isley chante des morceaux de Shout, Don't You Just Know It, Duke of Earl et pour une raison assez inconnue, I'm Popeye the Sailor Man, la chanson du dessin animé Popeye.
Round and around.
Cette chanson n'a atteint que le bas des charts. Leur single suivant était Nobody But Me, qui n'a pas atteint les 100 meilleures ventes, mais qui a été repris plus tard par les Human Beings, qui ont atteint le top 10 dans leur version de 1968. Burns produisant toujours, les Eastless sont passés chez United Artists Records, mais moins d'un an après la sortie de Twist and Shout, ils en sont réduits à la refaire sous le nom de Surf and Shout, avec des paroles faisant référence à d'autres succès de Ian and Dean, Surf City. Curieusement, pendant qu'il faisait cela, Burns les produisait sur du matériel beaucoup plus intéressant pour les morceaux de l'album, mais pour une raison quelconque, même si Burns produisait aussi des succès réguliers pour Solomon Burke, Benny King, les Drifters, les Eastless, eux, étaient coincés à essayer de sauter dans le dernier train en marche pour tenter d'obtenir un succès commercial. Même lorsqu'ils écrivent des chansons qui deviendront des succès, ils n'y parviennent pas. La dernière chanson que Burns a produite pour eux était une autre chanson originale des Eastless, Who's That Lady?
Who's that lady? super juicy look. Yeah, but don't touch, baby. No, 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 don't touch.
Cette chanson deviendra l'un des plus grands succès du groupe, mais pas avant qu'il ne la refasse 9 ans plus tard. 2 ans seulement se sont écoulés depuis Twist and Shout, mais les Isley Brothers sont commercialement morts. Mais le succès de Twist and Shout et les droits d'auteur de Shout leur donnent les moyens financiers de s'installer dans un environnement relativement meilleur et de créer leur propre maison de disques. Ils s'installent à Teaneck, dans le New Jersey, et baptisent leur nouveau label Teaneck, en son honneur. Le premier single de Teaneck, Testify, produit par les frères eux-mêmes, met en valeur leur nouveau guitariste, Jimmy James.
Brothers and sisters, it's a wildest song making, sir. If you want to have some soul, if you want to be a witness, I want you to listen while I testify. Maybe I can help you to get some soul and be a witness, baby. You want to be a witness? All it takes is the rhythm in your feet. Don't worry about the music, baby. You gotta have a beat. Now you got soul. You got soul. You got soul. Ah, yeah. Yeah. Oh, yes, sir.
Et même lorsqu'il était employé par les Isleys, Jimmy James jouait sur d'autres disques qui marchaient mieux, comme le grand succès de Don Covey, Mercy Mercy. Il quitte bientôt les Isleys et part en tournée avec un artiste mineur de la soul en soutien à Sam Cooke et Jackie Wilson, puis rejoint le groupe de Little Richard jouant sur une ballade soul classique « I don't know what you've got, but it's got me », également écrite par Don Covey. Entendu l'histoire de Jimmy James, et donc vous savez tout ce qu'il s'agit de Jimi Hendrix. Alors pour l'instant, laissons Hendrix et les Isley Brothers de côté. Ils reviendront plus tard dans l'histoire, je vous rassure. Mais bien sûr, ce n'est pas tout ce qu'il y a à dire sur Twist and Shout, que la version la plus célèbre de la chanson n'est pas celle des Isley. Alors que le premier single des Beatles n'avait été qu'un succès mineur, leur deuxième single, Please Please Me, s'est classé numéro 1 ou 2 dans les charts britanniques, selon le classement considéré. Et ils ont rapidement enregistré un album de suivi, enregistrant 10 chansons en une journée pour les ajouter à leur single afin d'obtenir un album de 14 titres. La plupart des chansons qu'ils ont interprétées ce jour-là étaient des reprises qui faisaient partie de leur show, des versions de chansons d'Arthur Alexander, des Cookies, des Shirelles, entre autres. John Lennon avait un gros rhume ce jour-là, et il a donc gardé le morceau phare du groupe pour la fin parce qu'il savait que ce morceau lui bousillait la gorge. Leur version de Twist and Shout n'a été enregistrée qu'en une seule prise. La voix de Lennon ne tenait pas assez pour une deuxième prise. Mais c'est sans aucun doute l'un des moments les plus forts de l'album. Tout à coup, Bert Burns avait un tout nouveau marché sur lequel il pouvait travailler. La prochaine fois que nous verrons Bert Burns, il travaillera avec des groupes britanniques et entamera l'une des carrières les plus durables du rhythm and blues britannique. Note de bas de page. Étonnamment, il n'existe aucun livre sur les Isley Brothers, à moins de compter un pamphlet de 72 pages publié par la fille de Rudolf Isley, et j'ai donc dû rassembler des dizaines de sources différentes sur le web. Bye.